Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau Flash Résultats. On va parler des résultats du week-end, un week-end assez calme hein, puisque beaucoup de matchs ont été reportés à cause des conditions météo. On va commencer bien sûr par le football et par la Régionale 1. Une fois n'est pas coutume, avec deux matchs, les deux Charentais ont joué, puisque les deux Charentais jouaient sur des terrains synthétiques. Cognac s'est imposé du côté de Hill 3-2, avec des buts d'Ismaël Idrissi et de Morland et un CSC de la part de Hill. Et surtout, à retenir dans ce match, l'arrêt d'un pénalty du gardien de Cognac, Maxence Serra, qui permet au Cognacé de remporter une belle victoire du côté de Hill, une victoire qui fera du bien au classement. On va le voir tout de suite. Du côté de la CFC de la réserve, le match a été délocalisé au stade synthétique de Lunès. La CFC qui recevait Panazol, une équipe qui avait éliminé l'équipe première de la CFC en Coupe de France la saison dernière. Donc c'était un peu une revanche pour le club en gomoisin. Une réserve qui profitait justement que l'équipe première ne joue pas en match officiel, puisqu'ils avaient disputé un match amical perdu 5-1 du côté de Bordeaux vendredi. Une réserve qui était beaucoup renforcée avec notamment les renforts de Patrick Sinche dans les buts, d'Étienne Desroches, de Arnaud Buisson, de Mamadou Guirassy, le nouvel attaquant de la CFC, ou encore de Thierry Lemaître qui revenait d'une longue suspension. Pourtant c'est Panazol qui ouvre le score par Touré au bout de 5 minutes de jeu, une frappe 25 mètres qui ne laisse malheureusement aucune chance à Patrick Sinche. Et les Angoumoisins vont rapidement revenir dans ce match avec une longue ouverture d'Antonin Lanier pour Noah Marchessault qui se joue de son défenseur et qui marque dans le but Limoges, un partout. Et puis magnifique frappe de Mamadou Guirassy en pivot, poteau rentrant, 2-1. À la 27e minute, derrière le match s'enflamme un petit peu avec malheureusement l'expulsion de l'entraîneur de Panazol, Amin Irab, juste avant la mi-temps. Et puis en seconde mi-temps, Panazol pousse, Panazol touche même le poteau. Mais c'est la CFC qui tient bon et la réserve de la CFC s'impose de 1. À noter aussi malheureusement l'expulsion de Turc, le défenseur de Panazol, coupable de coups de poing sur un joueur d'Angoulême à la fin du match. Et donc l'arbitre lui a mis un rouge à la fin du match. Donc Panazol, du coup, avec son entraîneur et son défenseur central, attendra un peu le verdict des suspensions, mais ça risque d'être assez cher. Donc voilà, en tout cas une belle victoire pour les Angoumoisins. Au classement, Brive est toujours en tête avec 27 points et nos Charentais se replacent, mine de rien. Angoulême est 9e avec 15 points, mais égalité avec le 6e, et Cognac est 11e avec 13 points, donc à seulement 2 points du 6e. C'est hyper serré dans ce ventre mou du championnat de R1. En Régional 2, quelques matchs également. À noter la victoire de Leroy 1-0 contre Saint-Savin Saint-Germain. Leroy en plus était la seule équipe à jouer dans cette poule A. Et c'est une belle opération pour Leroy qui remonte au classement, qui remonte à la 5e place avec 15 points. Et surtout qui prend un peu d'avance par rapport à la zone rouge. Donc c'est une bonne opération pour les Métallos. En poule B, Cognac malheureusement s'est incliné du côté du FC Rété sur l'île de Ré. Et Merpin s'impose à Dompierre Saint-Soul, une victoire qui fait du bien pour les hommes de Romain Rigallo, puisque Merpin était à la recherche d'une victoire qui lui échappait depuis plusieurs semaines. Et donc, Merpin reprend un peu d'espoir. Au classement, malheureusement, nos Charentais sont pas forcément très bien classés, puisque Merpin est 11e avant-dernier avec 7 points, Cognac est dernier avec 3 points. Ça va être très dur pour le maintien côté Cognac. Et puis Merpin a encore quelques matchs en retard, donc la possibilité de revenir sur les équipes de devant. Et à noter la 5e place de Charente-Limousine qui n'a pas joué ce week-end et qui compte 16 points. En poule D, il y a eu également un match avec la défaite malheureusement de Sireuil à Libourne 3-0. La formation de Didine Bensliman qu'on avait reçu dans Culture Sport il y a 2 semaines. Et il s'incline malheureusement à Libourne au classement. Sireuil est 4e avec 17 points et Jarnac est 10e avec 10 points. En Régional 3, en poule F, seulement un match de jouer avec l'éclatante victoire de Vindel 7-1 contre Thénon-Limera qui est lanterne rouge. Et donc Vindel profite de ce succès pour remonter à la 8e place avec 10 points. Une poule qui est toujours dominée par Saint-Ariex, premier avec 27 points. Enfin, il y avait un match de coupe de Nouvelle-Aquitaine au stade synthétique de Lunès ce dimanche après-midi. Donc c'était Basso qui recevait Périgny. Et Basso malheureusement s'incline 2-1. C'est pourtant les Angoumoisins qui ouvrent le score par Asdiop au bout de 20 minutes de jeu. Mais malheureusement, Périgny va égaliser en deuxième mi-temps et puis prendre l'avantage à la 96e minute. Donc c'est rageant pour Basso qui tenait sa séance de tir au but face à un adversaire de Régional 2. C'est malgré tout un super parcours pour les hommes d'Éric Joly et de Malik Diop hein, qui s'arrêtent donc au 7e tour et qui sont toujours sur le podium en D1 et qui sont encore qualifiés en Coupe de Charente. Donc il y a vraiment une belle fin de saison à prévoir pour Basso. Coupe de Nouvelle-Aquitaine en fait le point. Il reste donc deux qualifiés, Charentais, les deux équipes de Régional 1, la réserve de la CFC et Cognac, donc qui seront qualifiés donc pour le 8e tour. On verra un peu leurs futurs adversaires dans les prochaines semaines. En rugby, en national, malheureusement, défaite de l'UCS à Bourg-en-Bresse, 32-14. L'UCS, malheureusement, est toujours dernier, avec malheureusement une 16e défaite en 16 rencontres. Saison très compliquée pour l'UCS. En handball, en national 2 masculine, le match nul de l'ETEC du côté de Libourne, 32 partout. Un résultat nul qui est plutôt favorable à l'ETEC, qui reste en tête de sa poule à égalité de points avec Bruges. En national 1 féminine, malheureusement, la lourde défaite de Cognac, c'était le choc des extrêmes entre Cognac dernier et Mios premier. Défaite malheureusement de Cognac, 20-41 contre Mios. Une bonne première mi-temps de l'Algio, mais qui malheureusement a fait suite à une deuxième mi-temps beaucoup plus compliquée pour les Cognacaises. Du côté de la CH, victoire 30-29 à Mérignac. Une belle remontée des filles de Mac Bidorini, qui était menée de 6 points à la mi-temps et qui finalement s'impose d'un but plutôt. C'est une belle opération au classement puisque la CH est quatrième avec 27 points, avec 3 points de retard sur le troisième. Et Cognac est malheureusement toujours dernier avec seulement 13 points. Et ça fait désormais 9 points de retard sur Bordes et sur La Roche-sur-Yon, qui sont respectivement 12e et 11e. Donc forcément une saison très compliquée pour Cognac. Enfin, en basket, on va parler toujours de Cognac, de la CTC Grand Cognac, avec donc un match la SPTT Limoges, match important puisque Limoges SPTT était dans le quintet de tête. Et c'est une victoire de Grand Cognac basket 79-68, une victoire forcément qui fait le plus grand bien aux Cognacés, qui partage la tête du classement avec trois autres équipes, la réserve du CSP Limoges, Étré et Tulle. Cognac est premier avec 10 victoires et 3 défaites pour les hommes de Loïc Arami. Prochain match pour Cognac d'ailleurs, le week-end prochain, avec la réception de Tulle. Donc un match au sommet, parce que Tulle est également premier. Donc Cognac, après avoir battu Étré la semaine dernière, serait inspiré de battre Tulle pour faire vraiment la superbe opération au classement. Tout de suite, Culture Sport avec Sébastien Sudry, avec qui on va parler forcément des championnats du monde de nage en eau glacée. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Résultat. Bonne soirée, au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello tout le monde, bienvenue sur le 98.3, 90.7, www.attitudefm.com. C'est Attitude, votre radio en Charente. Nous allons donc assister à l'émission Culture Sport que vous suivez fidèlement et nous le savons. On va recevoir aujourd'hui Sébastien Sudry qui va nous conter ses aventures pour le week-end dernier donc de nage en eau glacée. Christian est là pour poser des questions. Christian, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Donc on est prêt, comme le disait Steph tout à l'heure, à se mettre à l'eau, d'accord ?
Oui, il va falloir que j'apprenne à nager, je suis pas très bon nageur, donc on va dire que j'ai peur d'avoir la tête sous l'eau, donc on va dire que je nage un peu sur le dos, ça me permet de pas avoir la tête sur l'eau.
Sébastien, merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue.
Oui, bonsoir, merci pour l'invitation.
On rappelle que tu as participé le week-end dernier au championnat du monde en eau glacée, ça se passait à Saint-Moins, donc dans les Hautes-Alpes, et tu vas nous raconter par le menu. Déjà, qu'est-ce que tu retiens de cette participation et de ta médaille de bronze?
Alors, c'était une grosse expérience, puis surtout une nouvelle expérience pour moi, parce que, moi, mes compétitions internationales, d'eau libre, d'aquathlon, triathlon, sont dans des eaux chaudes, puisque c'est des sports qui se pratiquent l'été. Là, c'était une compétition dans un lac. Donc, ils avaient créé un bassin de 25 mètres dans le lac. On nageait en maillot de bain et l'eau, le jour où j'ai nagé, était à 3 degrés. Et moi, j'ai nagé samedi le 50 crawl, le 50 brasse et le lendemain le 50 crawl. Et pendant le 50 crawl, il neigeait. Bon, pour vous dire, Saint-Moins, c'est une station de ski. Donc, le lac était en altitude à 1000 mètres d'altitude. Et dehors, il faisait à peu près 1 à 2 degrés. Quoi.
Comment et quand as-tu découvert finalement cette nage en eau glacée?
En fait, ça fait un an que je vois sur les réseaux, sur les que beaucoup de gens. Enfin, c'était un sport qui a l'air de monter en fait. Et j'ai vu que pas mal de gens étaient intéressés par cette compétition. Surtout que c'était en France cette année. L'an dernier, c'était en Pologne. Et moi, j'ai pas mal de contacts dans le milieu de la nage en eau libre qui étaient intéressés par faire ça. J'ai quelqu'un qui m'avait contacté et moi je lui avais dit non, t'es fou, je vais pas nager une eau à 4-5 degrés parce que moi en plus je suis assez frileux, je suis quelqu'un qui est assez frileux, c'est pour ça que j'aime bien les destinations exotiques quand je nage, puisque là on nage en maillot de bain les eaux sont souvent à 27, voire même 30 degrés. Là, franchement, c'était un pari fou. Et je me suis décidé, on va dire, 2 mois avant la course.
Finalement, alors, ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit, allez, banco, on y va?
Ben, en fait, c'était un peu, il y avait un reportage à la télé, justement, qui annonçait cette course. Et puis, j'étais avec ma femme, et puis, je lui dis, j'aimerais bien faire ce truc-là, mais elle m'a dit, mais t'es fou, quoi, t'es, j'ai dit, écoute, je vais essayer de relever le défi, c'est un truc qui me parle, j'ai envie de faire cette expérience-là. Et voilà, moi j'avais été marqué par des reportages aussi des gens qui font la nage en Antarctique, en Arctique, là, dans la banquise, là il y a des fous qui nagent dans des eaux à 0 degré. Et moi ça m'intéressait, je me dis pourquoi pas moi, mais bon c'est vrai que là je partais vraiment dans l'inconnu. Hein.
En termes de préparation, quelle préparation as-tu suivi Sébastien?
Alors au niveau de préparation, on va dire que un mois avant la course, je prenais des douches froides tous les matins. Donc là, c'était un peu dur, au réveil à 7h, douche froide. Après, le 31 décembre, j'ai été faire une plongée en maillot de bain à Châtel-Layon-Plage. Le 31 décembre, je suis resté 10 minutes dans l'eau en maillot de bain à l'état 8 degrés. Et puis moi, chez moi, j'ai une piscine et j'ai fait quelques longueurs dans ma piscine. Pareil, l'eau était autour de 8-10 degrés. Mais là, déjà, je me disais, waouh, là, tu pars dans un truc qui est costaud parce que à 8 degrés, déjà, bon, ben, je me caillais bien et je savais que comme c'était en altitude et en montagne, j'étais persuadé que l'eau allait être en dessous de 5 degrés. C'était le cas puisqu'elle était à 3,5 quand j'ai nagé, moi.
Au final, t'as essayé de reproduire les conditions du jour J, mais c'est vrai que parfois en sport, quand on reproduit les conditions du jour J, je pense notamment par exemple au football, quand on a un match à 15h, eh bien, on essaie de jouer la semaine d'avant à 15h pour un peu se familiariser à l'horaire. C'est vrai que reproduire les conditions qu'on va retrouver, c'est bien, mais au final, parfois, on les retrouve pas vraiment, sauf quand on est vraiment sur le jour J.
Ouais, c'est ça. Mais après, moi, j'ai discuté avant mes courses avec des Français qui me disaient, en fait, même si l'eau descend à 0 degré, parce qu'on en était presque là, ils me disaient, mais écoute, ça sera avec le mental. Quand tu vas descendre par l'échelle dans l'eau, eh ben là t'as pas le choix, t'es face au mur et puis il faut y aller quoi. Après c'est le mental qui prend le dessus quoi. On n'a plus trop le temps de réfléchir et puis il faut y aller quoi. Et ce qui a été le cas, ça a été le cas parce que on s'échauffe pas pour ces genres de compétition puisque on peut pas se mouiller parce qu'on va attraper la crève. Donc en fait on part à froid en fait. On est devant la ligne d'eau, on descend par l'échelle parce qu'ils voulaient pas que les gens plongent et on a 5 secondes pour s'immerger et ensuite le départ est donné. Et on n'avait pas droit non plus à faire les coulées et les culbutes comme on fait en piscine traditionnelle. Voilà, donc, mais en fait, ce qui est surprenant, c'est que dès que vous partez au bout de, on va dire, au bout de 10 mètres, là, le froid s'empare de vous et vous commencez à tétaniser. Bon, là, vous êtes quand même en compétition, donc vous nagez vite parce qu'il y a quand même le chrono, les classements. Mais vous sentez que les sensations sont bizarres parce que les muscles se raidissent et c'est surtout au niveau du cardiaque. Tout de suite, ça vous prend au niveau des bronches et tout. Et ça casse votre façon de nager. C'est vraiment particulier, quoi.
Tu as fait du coup le 50 mètres crawl et le 50 mètres d'eau, c'est ça, si je me trompe pas? Brasse.
En fait, les distances, c'était comme en natation, il y avait...
Est-ce qu'il y avait des séries ou est-ce que c'était directement une finale?
Ah non, c'était des séries au temps. Donc, par exemple...
D'accord, là,
Sur le 50 crawl, il y avait 14 séries hommes et moi, je nageais en 12e série.
Et on faisait le classement suivant les temps à l'arrivée.
Voilà, après, ils font un classement scratch une fois que tout le monde est passé. Donc, il y a un classement général sur toutes les... quelle que soit la catégorie d'âge. Et ensuite, il y a un classement par catégorie d'âge, par tranche de 5 ans, ce qu'on appelle les masters. Donc moi, je concourais chez les 50 et plus. Voilà, c'est là que j'ai fait 4e en brasse et médaille de bronze en crawl. Voilà, mais en fait, c'est comme c'est au chrono, vous pouvez avoir quelqu'un à côté de vous qui a 30 ans et puis l'autre, il a 20 ans. Et puis, c'est un classement, voilà, les temps sont au chrono.
C'est le classement scratch, en fait.
Oui, sur chaque nage et après ils individualisent par catégorie d'âge. En fait.
C'est quand même particulier au final d'être dans une série où on se confronte à des nageurs qui vont pas forcément jouer le même classement. Est-ce que du coup on se focalise vraiment que sur soi et on essaye de pas trop regarder autour de ce qui se passe?
Après comme c'est assez bien fait parce que on inscrit vraiment par temps et donc en fait.
Ah oui d'accord, donc dans ta série t'avais quand même des gens qui étaient à peu près de ton niveau.
Ah oui, on touche quasiment le mur en même temps, à un mètre près, quoi. Donc, ça me permet de plus que, en plus, ce genre de nage, comme il fait froid, on a tendance à lever plus sa tête. Donc, quand vous nagez, mais surtout en brasse, vous voyez, les gars à droite, et le gars à gauche. Et du coup, vous voyez si vous êtes dans le tempo. Et bon, sur la brasse, j'ai vu que j'étais un peu décroché, mais pas trop. Et en crawl, j'ai vu que j'étais avec les premiers. Donc, quand j'ai tapé le mur en crawl, je savais que j'avais fait un bon truc, quoi. Et je savais que La série d'après, il y avait deux de ma catégorie d'âge, et la dernière série, il n'y avait pas de, de gars de mon âge. Donc, quand j'ai tapé le mur, je sentais que j'avais potentiellement un podium. Voilà. En plus, moi, dans ma catégorie, j'étais le seul Français à représenter la France. Au total, on était 70 Français, hommes et femmes, sur une compétition qui regroupait 511 nageurs venus de 42 pays.
D'accord, donc c'était très éclectique. Une question toute technique, combien de temps tu mets pour récupérer après la course? Je veux dire, est-ce que ton corps, combien de temps ton corps se met pour retrouver une température normale?
Assez vite pour moi, puisque moi je faisais les 50. Par contre, quand, c'était surtout les gens qui faisaient les 200 mètres, les 500, voire le kilomètre.
Oui. Ah oui.
Eux, par contre, ils devaient passer ensuite par un contrôle médical. Et il devait passer aussi, il devait passer par un sauna qui était monté à l'extérieur et ils pouvaient même faire des jacuzzi. Eux, c'était voilà, ils avaient ça de après course, c'était obligatoire. Nous, les tous ceux qui nageaient les 50 et les 100 mètres, moi je sortais de l'eau, voilà, ça allait quoi. Et en fait, une fois qu'on sortait de l'eau, on était encore mouillé forcément, mais comme
t'avais la sensation qu'il faisait chaud, c'est ça?
Ouais, c'est ça, parce qu'il faisait un degré, il neigeait, mais moi j'avais pas froid en fait, j'étais bien. Je m'habillais normalement. Après, je suis rentré tranquillement à la salle des fêtes, là où on pouvait se changer, etc. La sortie de l'eau, en fait, ça se passe très bien. En fait, on a le corps qui se réchauffe, on a des super sensations. Le plus dur, comme je vous dis, c'est le départ, puisque on descend le long d'une échelle et on met la main sur le mur, on attend le start, et là, vous êtes dans l'eau et vous bougez pas. Et c'est surtout le départ qui est très dur, en fait, à gérer.
C'était quoi d'ailleurs la distance maximum qui avait eu lieu ce week-end?
Alors ça va, je suis au kilomètre. Alors
les kilomètres. Donc ça ouais, fait ça... du coup, si je me trompe pas, ça fait 40 longueurs de bassin.
Ouais, c'est ça. Et ça tourne autour de. Alors le record du monde, je sais plus, il a été fait en 12 ou 13 minutes, je crois, par un Américain. Mais les derniers, s'ils dépassaient 25 minutes, on les sortait de l'eau.
D'accord.
Parce que au bout d'un moment, les gens se tétanisent dans l'eau, c'est trop long. 25 minutes dans une eau à 3-4 degrés, c'est trop long. Donc ils avaient une barrière de temps et il y a eu six personnes qui ont été éliminées. En fait, ils les ont sortis de l'eau. Pendant le kilomètre, il y avait un plongeur qui était sous l'eau, qui surveillait l'épreuve sous l'eau pour voir s'il n'y avait pas de défaillance. Et voilà quoi. Après, moi, j'ai pas été autorisé à faire les longues distances parce qu'en fait, pour participer aux championnats du monde sur les plus longues distances, il fallait déjà avoir fait des épreuves en eau glacée dans d'autres, enfin en compétition en France ou ailleurs, parce qu'il y a un circuit mondial, etc. Et moi, il fallait être qualifié par rapport à des chronos, etc., faits avant. Le 50 et le 100 mètres, ça s'était ouvert plus à des néophytes. Les distances supérieures, il fallait les avoir déjà validées avant d'y aller, quoi. Donc moi, n'ayant pas, c'était ma première, donc je pouvais pas faire du longue distance, quoi.
En tant que nageur, tes distances de prédilection dans les bassins, c'est quelle distance?
Alors moi, par exemple, là, ce week-end, je vais nager à Bordeaux. Là, je fais les championnats d'Aquitaine, de Nouvelle-Aquitaine Master. Moi, je suis une spécialiste du 200 et du 400. Et dans ma carrière, j'ai nagé le plus, c'est les 400 mètres. Je suis vraiment un spécialiste du 400 mètres, crawl. Et voilà, quoi. Après, en eau libre, c'est différent. En eau libre, je fais le 5 km. Mais en piscine, ouais, je suis spécialiste du 200-400 mètres.
Ce que j'ai nagé. Tu es le Manodou des masters au final, parce que Laure Manodou a été championne olympique sur 400 mètres, il me semble.
C'est ça. Ben bon, ouais. Par contre, elle allait plus vite parce que piscine, elle a mis 4 minutes 03, ce que j'ai jamais fait dans ma carrière.
La prochaine compétition, c'est en eau vive ou c'est en piscine?
Ah non, c'est en piscine. Là, toute la saison, elle est en piscine jusqu'au mois de mai. Toutes les compétitions et les meetings en France ou en Aquitaine sont en piscine. À partir du mois de juin, là, ça passe en eau libre. Et là, je pars sur de l'eau libre. Je vais en Italie. Et puis, je vais faire aussi un truc spécial cette année. Je vais faire le 3 juin. Je vais partir de Jarnac et je vais aller jusqu'à Cognac à la nage. Et je vais nager 16 km dans la Charente. Là, c'est un défi. Le maximum que j'ai fait en compétition, c'est 10 km. C'est déjà pas mal à la nage. Et là, je vais passer à 16 bornes. On verra ce que ça donne. Voilà, c'est aussi un nouveau défi pour moi.
En piscine, à l'heure actuelle, la température est à combien? La température de l'eau est à combien, Sébastien?
Alors, les piscines, elles sont autour de 27-28, mais en compétition, il la baisse à 26. Parce que quand elle est trop chaude, on n'arrive pas à faire de perf dans l'eau. Donc, il la baisse à 26 degrés. Ouais.
Est-ce que tu crains le choc thermique, finalement, de passer, entre guillemets, d'une eau qui est à 3 degrés le samedi et de passer à 26-27 le samedi d'après, ou finalement, tu reviens dans ton jardin, entre guillemets?
Non, ça va être un peu différent parce que là, je vois, parce que dernièrement, avant d'aller à cette compétition, je continuais à m'entraîner à Angoulême et l'eau, elle était assez chaude et j'avais chaud dans l'eau. Alors que d'habitude, moi, je suis là depuis 17 ans hein, sur Angoulême, donc je connais très bien la piscine. J'y vais 3 fois par semaine et j'ai l'habitude de nager normalement. Et là, j'ai senti qu'elle était chaude alors qu'elle est comme d'habitude. Non, je pense que je vais avoir un contraste. Je vois même le matin quand je me douche maintenant avec de l'eau chaude. Hein, je vais arrêter de me doucher à l'eau froide. J'ai chaud tout de suite, quoi. Donc le corps s'habitue au bout d'un moment.
Pour en revenir à la nage de l'eau glacée, est-ce qu'il y avait des règlements spécifiques qui changeaient par rapport aux compétitions de natation lambda? Est-ce que par exemple il y avait une réglementation sur la température de l'eau? Enfin, j'imagine que c'est quelque chose qui était quand même hyper bien cadré.
Bah bon, déjà il fallait faire un électrocardiogramme avant de s'inscrire et on a fait un contrôle médical la veille. Moi, j'ai passé devant le médecin pour refaire un contrôle médical. Donc ça, c'était obligatoire pour tous les nageurs. Ensuite, ces compétitions-là, c'était quand même le cinquième championnat du monde d'eau glacée. En fait, si on veut battre des records, il faut que l'eau soit entre 0 et 5. Si l'eau avait été à 6 le jour de la compétition, on aurait nagé. Par contre, tous les temps qui auraient été faits n'auraient pas été validés. Il faut vraiment que ça soit entre 0 et 5 degrés. Après, la réglementation est différente. Comme je vous dis, on a interdiction de plonger. On descend par une échelle. On n'a pas le droit de faire les coulées comme on fait en brasse, en dos ou en crawl. Et les longs coulées avec les ondulations, on n'a pas le droit d'aller sous l'eau, en fait. Et le mur, pareil, on ne fait pas la culbute. On doit toucher la main sur la plaque et changer, et repartir dans l'autre sens. On n'a pas le droit de culbuter comme on fait dans les nages traditionnelles en piscine couverte, en fait.
Donc, ouais, tout à fait. Donc en fait, tu touches et tu repars dans l'autre sens avec une impulsion au niveau du pied sur le petit mur.
Voilà, sans couler. Donc du coup, c'est vrai qu'on va mourir du coup parce qu'on n'a pas l'effet du plongeon avec la coulée. Et la poussée du mur, on l'a pas non plus. Donc c'est vrai que tous les chronos étaient supérieurs à ce qu'on fait d'habitude, mais c'est normal. Hein.
Vous écoutez Attitude 98.3, 90.7 et www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission chaque lundi 19h 20h30. Nous retrouvons Christian et Sébastien Sudry pour la suite de notre émission.
D'ailleurs, j'ai lu je crois que c'était sur le site de la Fédération Française de Natation, qu'il y avait une Française qui a battu, je crois, 3 records du monde la semaine dernière, enfin le week-end dernier, et elle a été déclassée, elle a donc gagné médaille d'or, et elle a été déclassée pour finalement être reclassée après une réserve, parce qu'il y avait un point de règlement au niveau de son départ. Est-ce que t'as eu vent de cette histoire?
Moi, j'ai vu les records qu'elle a battus parce que moi, j'étais présent quand elle nageait. C'était une bonne nageuse. Hein. C'est vrai qu'elle a battu des super records. Après, je sais que il y avait pas mal d'arbitres tout autour. En plus, c'était filmé. C'est un peu comme en foot maintenant ou en rugby. Peut-être que pour valider des records du monde, parce qu'en fait, après, vous passez au Guinness des records. Hein. C'était quand même un truc. Oui, peut-être qu'elle a pas fait une. Elle a peut-être fait une coulée, une ondulation supplémentaire qui était interdite, puisque en fait, dès que vous poussez le mur au bout de 5 mètres, il faut déjà nager en fait. Alors peut-être qu'elle a dépassé la ligne de 5 mètres. Bon, moi, je sais pas exactement s'il y a eu des réclamations après par rapport à ça. Après, c'est vrai que cette Française, elle a vraiment cartonné. Et côté masculin, c'était plutôt les étrangers, les Français. On a fait des bons podiums, mais il y avait un jeune Américain de 18 ans qui a nagé 5 ou 6 fois et qui a battu 6 records du monde avec des chronos que même en piscine. Même en piscine traditionnelle, on voit pas trop ça de nos jours. Donc, il y avait vraiment un extraterrestre là qui était là. On a l'impression que il supportait le froid. Il a tapé des records, mais des temps que j'hallucine encore. Enfin, il a fait vraiment des gros chronos, ce nageur américain. Donc voilà, il y a eu quand même des gros chronos qui ont été faits malgré les conditions climatiques et les règles imposées, quoi.
Bon, alors c'était le Michael Phelps de l'eau glacée.
Ah, tout à fait, ouais. Après, moi, dans ma catégorie d'âge, moi, j'avais un Anglais qui était très fort. Et je sais pourquoi il était très fort, parce que quand on a nagé ensemble 50 mètres, il faisait 1m94.
Ouais,
moi, je suis 1m80, c'est déjà pas mal, mais quand j'étais à côté de lui, je dis, ah, je comprends que quand il tend le bras, ben, lui, voilà, c'est une machine, quoi. Et après, j'étais content parce que je suis quand même médaille de bronze, mais je suis à 1 seconde de lui, et j'étais à 2 secondes du record du monde de ma catégorie d'âge. Donc je me dis j'ai fait un truc intéressant. Et puis le deuxième, c'était un Norvégien, je crois, donc des gars qui sont habitués à dans des conditions climatiques, voilà quoi.
Est-ce que tu peux nous rappeler les masters, quelle catégorie d'âge c'est?
Alors les masters, ça a vraiment changé là, depuis quelques années. C'est une réglementation internationale qui s'applique en triathlon, en natation, même en athlétisme, ça a changé depuis l'an dernier. C'est par tranche de 5 ans, ça commence à partir de 25. Donc 25, 29, 30, 34, 35, 39, etc. Et donc moi, quand j'ai commencé toutes ces compétitions depuis des années master, moi j'étais dans la catégorie au début des 40, 44. Après, 45-49. Et là, c'est depuis 2-3 ans, je suis chez 50-54. Et voilà. Et ça permet, en fait, de, vous concourez avec les gens de votre âge. Parce que quelqu'un qui a 50 ans, ne peut pas faire les chronos d'un nageur, mettons, américain, qui a 20 ans. Moi, les chronos que je fais actuellement, si je faisais les temps que je faisais encore quand j'avais 20 ans, j'aurais fait dans les top 5, hein, puisque moi, à l'époque, je tournais quand même en 57 secondes au 100 mètres crawl, etc. Et, avec un temps comme ça, j'aurais fait le podium, en élite, le jour de la compétition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avec l'âge, on perd en chrono. C'est normal. Donc, du coup, ils nous classent par catégorie d'âge. Et puis, c'est normal que je sois classé chez les 50 et que je suis pas en concurrence avec un mec à 70 ans ou 65 ans. C'est normal aussi, quoi.
Bien sûr. D'ailleurs, est-ce que tu as une idée un peu du concurrent le plus âgé, dans le week-end dernier?
Ouais, je pense que ça a dû monter à 70 ans, je crois, un truc comme ça, quoi. Dans les 70 ans. Après, le gros contingent, c'était autour de la trentaine, quoi.
C'était un âge médian, la trentaine.
Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Mais après, dans ma catégorie d'âge, chez les 50 et plus, on faisait partie des plus gros contingents quand même. J'étais étonné. J'étais pas le seul fou, en fait. Et il y avait beaucoup de gens de ma catégorie d'âge. Donc, j'avais quand même de la concurrence. Parce que moi, ils y venaient de la planète entière. J'avais vraiment des pays, beaucoup de pays d'Europe de l'Est et tout ça. Donc, des gens qui sont habitués, hein. Moi, j'avais des Polonais, des Hongrois, des Tchèques, des Slovaques, des Norvégiens, des Suédois, tout ça, qui étaient dans ma catégorie d'âge. Donc, ceux-là, je me dis, ceux-là, ils sont habitués, c'est une culture chez eux, dans certains pays, des couples à banquise, ils se baignent, voilà.
Ben oui, on voit beaucoup les images, d'ailleurs, notamment en Finlande, je crois, le 1er janvier, il y en a qui prennent un bain, justement, pour fêter la nouvelle année, et puis l'eau doit pas être très chaude.
Ouais, c'est ça. Et ces gens-là, ils étaient là, en fait. Ils étaient vraiment des spécialistes. Donc, après, beaucoup ont nagé aussi sur les plus longues distances. Mais j'en avais dans ma catégorie et dans mes nages. Donc, moi, honnêtement, finalement, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait parce que j'étais vraiment des spécialistes, quoi. Bon, après, c'est mon vécu aussi. Moi, j'ai commencé la natation à l'âge de 10 ans. J'ai commencé à nager en 80. Et j'ai jamais arrêté, donc vous voyez, je nage depuis 43 ans maintenant. Donc j'ai quand même du vécu et des compétitions en natation, des distances. Enfin, j'en ai fait plus de 400 dans ma carrière. Donc c'était pas pour deux de plus que ça allait. Voilà.
Si j'ai bien compris, championnat du monde d'eau glacée en 2024. Alors je sais pas où ce sera, peut-être en Écosse, peut-être en Finlande, peut-être ailleurs. Vu que tu as une performance marquée maintenant cette année, donc tu seras potentiellement, si tu y retournes, tu seras potentiellement éligible à faire des distances un peu plus longues.
Pas forcément, il faudra quand même que je repasse par le championnat de France et que je valide un 100 mètres ou un 200 mètres au niveau du championnat de France, parce qu'il y a quand même le championnat de France qui est organisé. Non, sur les distances supérieures, il faut les avoir validées vraiment concrètement.
Ah oui, d'accord, il faut les avoir fait avant, du coup.
Ouais, c'est ça. Okay. Alors, on a le droit à 2 ans en arrière, donc il faut que ils reprennent les épreuves sur 2 ans, il faut les valider. Mais non, je pourrais pas monter sur la distance supérieure si je ne les ai pas fait avant. Je pourrais pas être qualifié directement. Sur les 50, c'est possible, mais pas au-dessus.
Et est-ce que donc retourner sur les compétitions d'eau glacée, c'est quelque chose qui tente ou au final le recul est pas encore assez grand pour y réfléchir?
Ouais, il faut que je réfléchisse quand même parce que franchement, c'est un truc assez mental. Moi, je dormais pas la veille. Après, vous savez, quand on est dans la salle où ils nous appellent un par un, parce qu'on nageait par, il y avait 10 lignes d'eau, hein. Et quand c'est votre série et que c'est à votre tour et que vous sortez de la salle et que vous allez vers le lac et que vous dites, c'est mon tour d'y aller. J'avais l'impression que je partais un peu à la bourre. Enfin, c'est vraiment particulier, hein, parce que c'est risqué aussi cardiaquement et tout ça. Et on n'est pas serein en fait. C'est pas moi sur des compétitions, même internationales. Bon, ben je sais, je suis entraîné, je suis préparé, j'ai l'habitude. Là, je partais vraiment dans l'inconnu complète. Et puis ça reste un sport extrême quand même. Donc les conditions sont pas à la sécurité, tout ça. Enfin, on y pense beaucoup avant, quoi. Donc c'est voilà. Et après, comme je disais, la préparation est pas évidente puisqu'il faut s'habituer au froid plusieurs semaines avant la course. Donc c'est la préparation qui est dure en fait. Le jour J, on n'a plus le choix, il faut y aller. Et c'est tout ce qu'il y a avant. Donc, est-ce que je vais me remettre pendant des semaines à me préparer dans les eaux froides? Voilà, faut voir, quoi.
Oui, parce qu'au final, te préparer spécifiquement pour ça, ce serait peut-être au détriment de deux objectifs que tu t'es fixés.
Ouais, ça peut être ça. Oui, ça peut être ça. Oui. Après, ça dépend des calendriers, puisque ça change chaque année. L'année prochaine ou dans 2 ans, je sais pas trop où j'en serai. Donc, j'ai mon planning il est fait sur cette année là, sur 2023. Je sais où je vais aller. Déjà, je suis qualifié sur des compétitions internationales. Ça a été validé par la Fédération de triathlon. Voilà, puisque certaines courses, là, il faut passer par des validation. On peut pas y aller comme ça. Donc cela, ça c'est acquis. Mais d'autres, il faut que je me qualifie. C'est pas évident non plus. Il faut passer par une sélection pour aller plus haut. Mais ça, c'est déjà prévu dans ma tête. J'ai déjà inscrit d'ailleurs sur plusieurs courses. Mais pour l'eau glacée l'année prochaine ou dans deux ans, je sais pas encore. Faut que je vois. Pourquoi pas, hein, moi je suis capable de le refaire, mais bon, il faut. C'est un peu loin dans. Voilà, c'est un peu loin.
Là, on était plus dans la découverte. D'ailleurs, au niveau préparation, est-ce que du coup tu as pu sur place échanger avec d'autres tricolores qui étaient peut-être plus habitués à ce format de compétition? Est-ce que tu as pu plus échanger pour savoir comment eux justement se préparaient avec beaucoup plus d'expérience?
Eh bien alors, j'ai été étonné, s'il y en a beaucoup qui s'entraînent toute l'année dans des lacs ou en mer, ils s'entraînent en conditions réelles. C'est des gens qui aiment nager en eau froide et qui nagent quelle que soit l'année, quoi. Il y avait beaucoup qui ils font ça. Il y a Center Club, il y a des clubs qui se sont formés de nage d'eau froide en fait. Les clubs de natation, ils ne font que ça. Par exemple, dans l'Oise, là, il y a un lac pas loin de la région parisienne. Il y a un gros club, ils sont 50 nageurs et eux, ils s'entraînent toute l'année là-bas. Donc, ils ont des entraînements. Ben, ce soir, au lieu d'aller faire de l'athlétisme, ben, eux, ils vont au lac et ils vont nager en conditions réelles, en maillot de bain, quel que soit le temps. Et voilà. Donc, il y en a beaucoup qui étaient comme ça. J'ai été étonné. C'est des adeptes vraiment de cette discipline, quoi. Ils ont pas froid aux yeux.
Tu parlais tout à l'heure du projet que tu avais de rallier Jarnac à Cognac. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant?
En fait, c'est le flot des Gabariers. C'est une compétition que j'avais fait l'an dernier. Moi, j'avais fait le 3 km, j'avais gagné, j'avais fini premier au général. Et il y avait aussi un 33 km, donc ça, c'est un peu long. Et cette année, ils ont créé une distance intermédiaire, un 16 bornes. Donc du coup, je suis inscrit sur le 16 km. Donc je ne ferai pas ça tout seul, en fait. On est encadré par des canoës et puis dans l'eau, on sera peut-être 50 ou je sais pas combien on va être sur le 16 bornes, mais je serai pas tout seul, en fait. C'est une compétition, en fait.
C'est pas un défi en solo, au final.
Non. Mais pour moi, ça en sera un quand même, parce que 16 bornes, c'est long, quoi. 16 kilomètres, c'est long, hein. Et je sais plus, il y en a pour 4-5 heures de course, quoi. Voilà. Donc c'est long, hein. Dans l'eau, vous perdez les calories, hein. C'est au bout d'un moment, le corps, même si la Charente sera plus chaude, passer 2 heures dans l'eau, vous refroidissez. Hein.
Donc là encore, il y a une préparation spécifique pour ça?
Bah, je rallongerai un peu les distances en entraînement. Parce que moi, le midi, j'ai pas trop le temps. Je m'entraîne de midi à 13h à Nautilus. Je fais 3 km à l'heure. Ben là, quand c'est comme ça, quand je fais des compétitions de ce type, j'essaye de gratter un peu, nager 1h15 et faire 4 bornes. Quoi. Donc je monterai jusqu'à 1 km, mais après, matériellement, j'ai pas le temps de faire la distance. Après, ce que je fais, c'est que l'été, je vais nager à Saint-Yrieix au lac. Et par exemple, là, je me rappelle au mois de juin, un dimanche matin, je suis parti, j'ai nagé 10 bornes. Donc, 10 km tout seul dans le lac. Voilà. Mais après, la distance 16 bornes, non, je la ferai pas, je la ferai que le jour de la compétition.
D'accord.
C'est comme les marathoniens, hein, ceux qui font du marathon, ils s'entraînent pas forcément sur 42 bornes, ils vont courir, ils s'entraînent jusqu'à 30 km. Et puis, le jour de la compétition, ils font 42 bornes, quoi.
Oui, il n'y a pas besoin de faire un marathon pour préparer un marathon, ça c'est sûr. Parce qu'en plus, faire un marathon, on s'en remet longtemps après. Donc au final, peut-être que la préparation d'un marathon, c'est justement effectuer un autre marathon, mais plusieurs mois auparavant.
Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, quoi. Donc.
Mais est-ce que quand même il y a des points de référence que tu as parce que t'as pas mal d'expérience, t'as fait pas mal de compétitions en eau vive. Quand tu te lances dans une course de 16 km, est-ce que il y a quand même des points de référence que tu as par rapport à tes expériences passées, ou un peu comme à l'instar de ce week-end, t'es vraiment dans l'inconnu la plus totale?
Bah, je suis un peu dans l'inconnu parce que moi, quand je fais mes eaux libres, mes compétitions, c'est sur 5 km. Déjà, 5 km, je trouve que c'est déjà long parce que c'est plus d'une heure de course. Quand vous sortez d'un 5 bornes dans l'eau, vous êtes un peu entamé. Là, je fais ça à 3. Donc là, je vais en faire 3. Là, non, c'est pareil, je pars un peu dans l'inconnu, quoi. Mais je sais que quand je vais sortir de l'eau, je sais même pas si je vais pouvoir marcher parce que le corps il va être en action, parce que la natation c'est un sport, si vous arrivez, il faut nager, il faut jamais s'arrêter, en fait c'est un sport, oui. Continuer, c'est un peu comme le vélo, enfin faut pédaler tout le temps, donc ça va être un effort assez long. Vous dites plus de 4 heures de nage, donc non, là je pars un peu dans l'inconnu. Après j'espère qu'il y aura des ravitaillements. Je sais qu'il y a un ravitaillement qui est prévu sur une île à mi-parcours. Il faudra manger parce que autrement on tiendra pas le coup, quoi.
Enfin, d'ailleurs, en marathon, on parle souvent du mur du 38 ou 39e kilomètre. Est-ce que c'est un peu pareil en eau libre? Est-ce que à un moment donné, le trop de kilomètres fait qu'il y a un mur qui s'installe même imperceptiblement?
Oui, parce que quand j'ai nagé mon 10 kilomètres là à Saint-Yrieix, quand j'ai commencé à passer les 2 heures de nage, là ça commence à tirer quand même. La nana, j'ai différente. Et puis moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais planqué un seau avec du ravitaillement sur le côté, et j'avais décidé tous les 3 kilomètres de sortir de l'eau, manger une barre, un gel, et après hop, je me remettais à l'eau. Et ça me tenait, ça me boostait pour faire 3 bornes de plus, quoi. J'ai fait ça 3 fois. Ça m'a permis de tenir. Oui, c'est la distance, et vous bouffez les calories, donc il faudra forcément manger, autrement vous tenez pas. Vous avez une sacrée fringale pour avoir un coup, même un malaise. C'est des longues distances quand même, hein. Déjà faites-les en courant, allez courir 16 bornes. Là, c'est en nageant. Non, il faudra vraiment manger à mi-parcours, je pense, hein. Et bien manger la veille, et puis voilà, quoi. Et après, c'est le mental.
Avec des sucres lents, des choses comme ça.
Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ce que je fais la veille des courses. Je mange des pâtes, du riz, des trucs comme ça, de la viande blanche. Et puis après, moi, le jour des courses, j'ai un problème, c'est que ça m'arrive. Enfin, j'ai du mal à manger le matin, le jour de mes compétitions. Ça m'a joué des tours. J'arrive rien à avaler. Je suis tellement stressé que je pars avec rien dans le ventre. Et des fois, ça me pose des problèmes parce que des fois, j'ai passé l'heure dans l'eau. Des fois, j'ai un peu la tête qui tourne et tout. Mais si je mange le matin avant la course, bah, dans l'eau, je suis pas bien, quoi.
D'ailleurs, le stress, c'était aussi une notion que je voulais évoquer. Est-ce qu'il y a du stress quand on fait finalement une compétition qu'on connaît pas, ou finalement le stress, il est omniprésent à chaque compétition?
Quand c'est de la nouveauté, le stress, il est important. Après, moi, quand je fais des compétitions, moi, je suis vraiment spécialiste de l'aquathlon. C'est natation enchaînée avec la course à pied. J'en ai fait une trentaine. Puis j'ai des palmarès internationaux dans cette discipline. Non, j'y vais. Là, sur ces courses-là, j'y vais confiant parce que je mentalise beaucoup la course avant. Je sais que quand j'y vais, moi, je me prépare, et quand je vais sur la course, non, là, c'est le mental de guerrier qui l'emporte. Le stress, vous pouvez l'avoir sur un moment quand vous êtes sur la ligne de départ. Hein, on est tous alignés, on attend le starter pour plonger dans l'eau ou pour courir dans l'eau. Ça dépend si on part sur la plage. Le stress, il est à ce moment-là, mais après, une fois que la course est partie, bah, vous êtes dedans, hein, vous réfléchissez plus, et puis c'est à la gagne, quoi.
Vous écoutez Attitude 98.3, 90.7 et www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h, 20h30. Nous retrouvons Christian et Sébastien Sudry pour la suite de notre émission.
Finalement, le cercle des masters dans ta catégorie doit être assez petit. J'imagine que tout le monde se connaît. Est-ce que toi, tu as sympathisé avec des concurrents que tu croises entre guillemets régulièrement ou plusieurs fois dans la saison, de n'importe quel pays? Enfin, est-ce qu'il y a des concurrents avec qui vous échangez par mail, ou comment ça se passe entre vous?
Ben en fait, on est des adversaires le jour des courses, mais après on s'échange, enfin on se contacte beaucoup sur Facebook et tout ça. Après, moi, dans le circuit de l'eau libre et de l'aquathlon, comme je pratique ça depuis plus de 10 ans, et qu'on vieillit ensemble forcément, parce que ceux qui étaient avec moi dans la catégorie 40, ben maintenant ils sont avec moi dans la catégorie 50. Souvent, c'est des athlètes qui sont pas de passage, hein. C'est des gens qui durent et qui sont là depuis très longtemps, et donc moi je les retrouve à chaque fois. Et souvent c'est marrant, mais souvent j'arrive à, par rapport aux concurrents, je sais à peu près ma place avant la course, quoi. L'an dernier en Autriche, j'étais champion d'Europe d'aquathlon, enfin pour la troisième fois. Et quand j'ai vu les concurrents, tout ça, il y avait l'Espagnol, je l'avais déjà battu, il y avait l'Allemand, je l'avais battu, il y avait l'Autrichien, je l'avais déjà battu l'année d'avant. Donc quand je les ai vus, je les bats, mais de très peu, hein, ils sont pas loin, ils peuvent passer devant, mais suivant les gens qui sont là, déjà je sais à peu près si je suis pas loin du podium ou quoi. Et voilà. Après, sur les aquatons, ouais, c'est toujours à peu près les mêmes concurrents depuis des années. Après, sur l'eau libre, c'est un peu plus différent, parce que l'eau libre, ça il y a des fois des nageurs que je connais pas. Et puis moi, quand je fais des courses à l'étranger, ben il peut avoir des concurrents qui arrivent un Ukrainien qui arrive et que je connais pas, ou un Anglais pareil qui avait un bon niveau mais qui se remet à nager. Et c'est des nouveaux concurrents. La nage en eau libre, c'est un peu plus ouvert que l'aquathlon, ou plutôt des triathlètes qu'on connaît et qui ont un passé et qui sont toujours présents, quoi.
L'eau libre, on en a vu sur les Jeux Olympiques, là, il me semble, sur les 2-3 derniers JO. Est-ce que toi, t'as ressenti un boom sur cette discipline, eau libre, du fait qu'il y ait la médiatisation des JO, ou pas forcément?
Ah si, c'est énorme, parce que depuis que c'est passé aux Jeux Olympiques, là, ça a commencé au Brésil, je crois, en fait, il y a des compétitions d'eau libre, mais il y en a partout, il y en a énormément en France, il y en a même beaucoup en Aquitaine d'ailleurs, et non, ça explose, et les concurrents, il y en a de plus en plus, quoi. Moi par exemple, là, cette année, j'ai fait la traversée de Bordeaux à la nage dans la Garonne, j'ai fait 3e au général, donc là, c'était même pas master, hein, je suis 3e au général, et on était 700 quand même. Voilà, donc pour nager, quoi. Donc j'en ai fait d'autres où on était 500, d'autres où on était 600. Non, ça prend une ampleur, ça a vraiment un boom. La nage en eau libre, ça plaît vraiment parce que c'est une espèce de sport nature en extérieur et ça plaît vachement aux gens, quoi. Et le circuit national et international se développe. Il y a des courses partout. Il y en a vraiment partout. Ça se développe. C'est vraiment un sport qui est en vogue. Hein.
Les Français là-dedans, ils sont bien classés au scratch, Sébastien.
Oui.
On a des têtes de série peut-être.
Oui, en international, les Français, aux Jeux Olympiques, tout ça, l'équipe de France fait partie des meilleurs, les trois meilleures nations au monde, c'est les Français. Après, faut savoir que c'est Lucas qui est responsable de l'équipe de France de longue distance, donc l'ancien entraîneur de Lormanodou.
Philippe Lucas.
Voilà, et du coup, qu'il a repris l'équipe de France, ils font tous des podiums, quoi.
On peut notamment citer Aurélie Muller, qui avait fait médaille sur une Olympiade, mais qui avait vu sa médaille retirée parce qu'elle avait mal touché le portillon d'arrivée.
Ouais, alors ça c'était un peu une escroquerie.
C'était cruel, ouais.
D'ailleurs, il me semble qu'il y a eu des plaintes ou des recours. Enfin, est-ce que t'as eu le fin mot de l'histoire? Est-ce qu'elle a récupéré sa médaille?
Non, elle est restée troisième. Mais c'est que en fait, elle est passée sur la gauche pour doubler la brésilienne et s'est organisée au Brésil. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu la course, elle a respecté, elle a touché la plaque avant la brésilienne. Sauf que les arbitres ont considéré qu'elle avait gêné. Parce qu'en fait, quand vous êtes à 10 mètres de l'arrivée, il ne faut pas couper la trajectoire du nageur, en fait. Quand vous êtes en eau libre, on fait comme en vélo, en fait. Vous pouvez nager en file indienne, donc profiter de l'aspiration du premier qui est devant. Parce que le premier se fatigue plus, il lève la tête pour s'orienter, donc il est plus en fatigue. Les autres sont derrière et se calent dans ses pieds. Et sur les derniers 10 mètres, vous n'avez pas le droit de faire des diagonales, etc. Et ils ont considéré qu'elle avait coupé un peu la trajectoire de la brésilienne. Mais moi, franchement, j'ai trouvé que c'était un peu abusé. Voilà, par rapport à la réglementation, parce que moi j'étais arbitre de triathlon pendant des années, donc je connais la réglementation, etc. Puis en étant pratiquant, je suis dans l'eau, je sais comment ça se passe. Ouais, j'ai trouvé que là il y a eu une histoire un peu, voilà, c'est pas très clair, quoi. Mais bon, dans tous les sports, il y a toujours des fois des choses qui passent à l'as. On l'a bien vu encore au football, il y a toujours des choses qui, bon, c'est comme ça, le sport c'est humain, donc voilà, il y a des failles.
Oui, tout à fait. Et puis il y a aussi l'arbitrage humain, donc ça porte forcément à des interprétations qui peuvent varier d'une personne à l'autre au final.
Voilà, c'est ça.
Et puis en plus, parfois la géopolitique s'en mêle, donc c'est compliqué.
C'est ça. Donc, mais pour revenir à l'équipe de France, oui, les Français sont vraiment très forts. Alors après, pour revenir au marathon, ceux qui nagent en eau libre, on appelle ça les marathoniens de la natation, parce que ce sont des nageurs, il faut écouter ça, ils nagent entre 10 et 15 km par jour à l'entraînement, donc ils s'entraînent deux fois par jour. Ça veut dire qu'ils font des entraînements de 7 à 8 km à chaque fois. Entre-temps, ils font de la musculation et ils font ça 6 jours sur 7. Donc c'est vraiment des marathoniens de la natation, parce que aux Jeux Olympiques, il y a le 5 km, le 10 et le 25. Il y a un 25 km aux Jeux Olympiques et les Français, on est vraiment très forts sur le 10 et le 25 justement. Hommes et femmes. Plus c'est long, plus les trucs sont bons.
Je crois que c'est les Hongrois qui sont balèzes, non, en Europe.
Ouais, les Hongrois, oui. Beaucoup de pays de l'Est, en fait. Hein. Tous ces pays-là, les Tchèques, etc. Les Ukrainiens et les Russes aussi sont très forts. Mais bon, en ce moment, on les voit plus dans les compétitions. Mais,
Malheureusement,
ouais. Mais ils sont forts aussi. C'est des nations qui sont dures au mal, en fait. Et qui, voilà, c'est les sports de galériens. Hein. Nager 25 km... C'est pas donné à tout le monde. Et puis, comme je vous dis, les entraînements qu'ils font, c'est colossal, quoi.
C'est vrai qu'au final, l'eau libre, c'est un peu le marathon ou le semi-marathon. Enfin, c'est les courses sur route un peu de l'athlétisme. On a les courses sur stade et puis on a les courses hors stade. Je pense qu'on peut faire cette comparaison-là.
Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Voilà.
À la différence que, au final, quelqu'un qui fait un marathon va pas faire un 100 mètres ou un 200 mètres sur la piste, alors que vous, les nageurs, notamment toi, du coup, vous êtes capable d'aller faire une compétition en eau libre sur 5 ou 10 kilomètres et puis, quelques semaines plus tard, d'aller se faire un 200 ou un 400 dans le bassin.
Ouais, c'est ça. Ben oui, parce que là, par exemple, dimanche, là, je vais nager des 50, des 100, voilà, et en eau libre, ça commence minimum, c'est 1500 mètres. Vous n'avez pas la distance en dessous, c'est souvent ça commence à 1500 mètres. Donc déjà vous êtes dans le demi-fond, on appelle ça du demi-fond natation.
Oui, oui.
Voilà quoi,
c'est pas trop compliqué justement de se préparer physiquement, parce qu'au final faire un 200 mètres en bassin et faire un un 1500 en eau libre, j'imagine que forcément ça fait appel à des préparations qui sont différentes. D'un côté on prépare peut-être plus le souffle, le rythme, alors que l'autre on est plus du côté explosif.
Oui, mais le sprint, on va dire les courtes distances, ça me sert aussi parce que sur les nages en eau libre, quand on part à 300-400, il faut partir très vite. Sur la première année, il faut nager assez vite et là, vous partez sur des bases de piscine en fait. Moi, je pars à bloc parce qu'après, il faut passer dans les premiers les bouées parce qu'autrement, il y a un embouteillage, hein. Vous prenez des coups, hein, etc. Donc, ça part très vite et souvent, dans le dernier kilomètre, ça accélère. Et quand on arrive à 200-300 mètres de l'arrivée, ça repart à des vitesses folles. Et là, on a oublié qu'on a nagé pendant 5 bornes. Et on repart à nager 200 mètres à bloc, quoi.
Donc, cette faculté à changer de rythme, elle est hyper importante au final.
Exact, ouais. Et souvent, sur ce qui est marrant, quand on voit, par exemple, les Jeux Olympiques, etc., où là, il y a eu les championnats du monde il n'y a pas longtemps à Abu Dhabi, là. Sur le 10 km, les élites, hein, ils étaient, 40. Et à l'arrivée, ils sont 20. Dans le final, et ils sont encore 20 dans les 50 derniers mètres. Ça s'est joué au sprint, en fait. Et celui qui est dixième, il est à 5 secondes du premier, en fait. Alors qu'ils ont nagé 10 bornes, les gars. Ouais. Ça fait au sprint. Donc, moi, du coup, ça me sert quand même d'avoir une vitesse de base rapide. Parce que moi, des fois, sur des courses, je me suis fait battre au sprint où je finis quatrième parce que, le gars, il a accéléré dans les 50 derniers mètres. Donc, il faut avoir une pointe de vitesse quand même pour finir. C'est important.
Ouais, ça réclame à la fois des compétences d'endurance et de vitesse.
Ouais, tout à fait, c'est ça.
C'est là où l'exercice est difficile, non ?
Oui, parce qu'en fait, ça fait changement de rythme cardiaque, parce que vous partez très vite, donc le cœur bat très vite. Après, vous temporisez les nageurs, on se cale pendant la distance, et après, vous réaccélérez pour finir. Et des fois, sur certaines nages en eau libre, des fois, on touche une plaque dans l'eau, ou alors des fois, la sortie, elle est sur la plage. Et donc, vous sortez de l'eau, et vous courez peut-être des fois 50 ou 100 mètres. Et vous passez sous le porche. Donc, du coup, vous nagez, puis vous finissez, en fait, en courant et pas en nageant. Donc là, vous levez au bout d'une heure dans l'eau et vous courez pendant 20 ou 30 mètres, je dis pas de cardiaque. Moi, souvent, quand c'est arrivé comme ça sur la plage, une fois que j'ai franchi la ligne, je tombe par terre. Hein. Cette année, en 2022, j'ai fait Barcelone, 25 kilomètres, où j'ai bien marché, puisqu'on était 400 et j'ai fait 6e au général. Je me suis retrouvé en tête avec les 10 premiers et quand on est sorti de l'eau, le classement s'est fait un peu sur la course à pied, sur les 20 derniers mètres. Hein. Il fallait courir.
Toute proportion gardée, c'est un peu comme le triathlon quand tu sors de l'eau et que tu cours pour aller au parc à vélo.
Exactement, c'est la même chose. C'est identique. Parce que des fois, pour des questions de logistique, on peut pas arrêter la natation dans l'eau. Et des fois, ils nous font sortir de l'eau et on a 10-20 mètres comme ça. Mais moi, ça m'est arrivé, il y a quelques années, pareil, j'avais fait la traversée de Bordeaux à la nage, que j'ai gagné. J'ai quand même fini premier sur cette course, hein. Pareil, cette année-là, on était 1200. Et en fait, l'arrivée, quand on sort à Bordeaux, on sort sur un ponton. Et, sur un ponton pour les bateaux. Et l'arrivée est en haut. Et je suis sorti avec le nageur en tête. On est sorti ensemble de l'eau. Et en courant, sur les 30 mètres, j'ai réussi à le gratter et j'ai gagné la course, en fait, par la sortie de l'eau, en courant.
Ça, c'est l'avantage finalement d'avoir fait du triathlon ou de l'aquathlon par rapport à un nageur qui est juste nageur.
C'est ça. Sur certaines courses comme ça, ça m'a vachement avantagé, quoi. Ouais. C'est que le nageur, il fait que nager et puis quand il a fallu sortir de l'eau et courir pendant 20 mètres, c'est pas très long. Mais moi, je l'ai gratté sur la
ligne droite. Il était plus dans son élément de confort.
Ouais, c'est ça. Donc moi, c'est ça qui est bien parce que moi, je fais pas mal de sports différents et à chaque fois, j'arrive à prendre une expérience d'un des sports, j'arrive à le greffer sur un autre sport, ce qui me permet d'avoir une vision et une expérience plus générale par rapport à certains qui se font qu'une discipline et qui restent que dans une discipline. Moi, je fais tous les sports. Hein. Je fais tous les sports puisque je fais la course à pied, du cross, du trail, du triathlon, de l'aquathlon, de la nage en eau libre, de la compétition en piscine. Et je fais aussi, depuis 7-8 ans, des courses à obstacles, des Spartan Race, des courses à obstacles. Et cette année, là, j'étais en novembre à Tenerife et j'ai fini premier vétéran, premier master.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette discipline, Sébastien ?
Alors, c'est une discipline qui date depuis à peu près 10 ans. C'est un peu le parcours du combattant, un peu comme les légionnaires, en fait. Vous courez, c'est une distance entre 10 et 20 kilomètres, en général, et vous avez une succession d'obstacles à passer, obligatoires. Donc, ça peut être des planches à passer, monter à la corde, porter des chaînes qui font souvent 30 kilos, ramper sous des barbelés, passer des obstacles naturels, dans des ruisseaux, des trucs comme ça, traverser un lac à la nage. Vous êtes habillé avec vos chaussures, hein. Et voilà,
c'est, courses... ouais, c'est la course commando, quoi.
Ouais, c'est ça, mais ça se développe pas mal, ça aussi, c'est en vogue. C'est, il y a aussi des championnats d'Europe et des championnats du monde. Et moi, j'ai, comme je suis assez, j'ai quand même participé aux championnats d'Europe en Italie il y a 3 ans avant le Covid, et j'ai fait même les championnats du monde au Canada il y a 5-6 ans.
C'est rattaché à quelle fédération?
Alors, pour l'instant, ça a été, alors en France, ça a été rattaché à la Fédération d'athlétisme. Dans d'autres pays, ça a été rattaché, je crois, au pentathlon.
D'accord.
Et c'est un sport qui risque d'être olympique, a priori, hein.
Ah oui, la course d'obstacles?
Oui, 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 c'est en pourparlers, ouais, parce que c'est assez spectaculaire.
Oui, c'est vrai que c'est spectaculaire, au final.
Il y en a aussi qui sont organisés en Charente, hein. Il y a quelques courses, là, qui ont été organisées en Charente aussi, du côté de
je sais. Il n'y avait pas une à rouler?
Ouais, c'est ça, j'allais dire à rouler, oui. Il y en a une là. Et puis, voilà, moi, j'en ai fait sur le bassin d'Arcachon, j'en ai fait à Bordeaux, j'en ai fait à Limoges 2-3 fois. Il y en a dans la région, hein. Ça se développe pas mal. Et c'est pareil, c'est des courses, alors, à cause des obstacles, on peut pas arriver sur 500 sur le premier obstacle. On part par vague. Donc, vous partez par vague de 50 et toutes les 2 minutes, il y a 50 personnes qui partent. Moi, par exemple, à Tenerife, là, quand je l'ai faite, on était 7000, hein, participants quand même.
Ah ouais, c'est énorme.
Voilà. Et j'ai gagné chez les 40, chez les 50 ans, c'est moi qui finis premier, quoi. Mais au général, je crois que je suis 5-6e et je suis premier master, quoi. Donc, j'étais content aussi de faire un truc, voilà, parce que là, pareil, c'est des spécialistes, hein. C'est des gars qui font beaucoup de crossfit et tout ça. Et voilà, moi, voilà, c'est ça que moi j'aime bien, c'est participer à des sports différents. Puis à chaque fois, j'ai une certaine réussite. Donc, ça m'encourage de faire des trucs un peu changer d'univers. Et puis, pas rester en Charente, faire les courses de, voilà, toujours les courses de Charente. Moi, je les ai faites. Moi, il faut que j'aille courir partout en France et à l'étranger, quoi. J'aime bien me confronter à des nouveaux concurrents et dans des pays différents. Voilà, et toute cette expérience, ça me sert pour mes compétitions suivantes, en fait.
Pour t'aider dans ta recherche d'épreuves, est-ce que tu as des sponsors qui te sont finalement attachés?
Ah, pas du tout. Comme c'est des sports amateurs et que c'est pas forcément médiatisé. Enfin, moi, je suis assez médiatisé localement. Tout ça, je passe souvent dans la presse. Mais non, les sponsors, ils se battent pas du tout. Non, c'est moi, je paye tout avec mon salaire. Et puis, quand je suis en compétition en déplacement, mais c'est sur mes congés annuels. Hein. Moi, j'ai pas d'aide de mon administration parce que moi, je suis fonctionnaire. Je m'entraîne le midi et quand je pars sur mes compétitions, bon, quand c'est le week-end, ça va. Je travaille pas le week-end. Mais quand c'est en semaine, ben je prends des congés, en fait. Hein. Non, moi, c'est aussi des sacrifices financiers, puisque là, en 2022, j'ai quand même couru dans 7 pays à l'étranger, donc c'est des déplacements assez onéreux, les billets d'avion ont vachement augmenté, tout ça. Donc c'est un sacré budget à l'année. Non, j'ai pas de sponsor, mais après j'ai fait des demandes, tout ça, mais je vais pas rentrer un peu dans les polémiques, mais c'est vrai que j'ai fait des demandes au président du Grand Angoulême avec un gros pressbook de 40 pages, puisque moi, comme je dis, je passe souvent dans la presse, mais pas que la champ libre. J'ai même pas eu de réponse de sa part, quoi. Vous voyez, même pas un refus, j'ai pas eu de réponse. Donc, il y a quelqu'un dans sa ville qui est champion du monde, qui a 4 titres de champion d'Europe et j'ai quand même 14 titres de champion de France, hein, pas oublié. Même pas une réponse. Donc, je trouve ça, vous voyez, c'est, donc même à ce niveau-là, vous voyez, vous avez même pas reconnu localement. Voilà.
Après, c'est pas classe du tout.
Non, c'est pas classe du tout, parce que j'avais fait un beau pressbook et tout ça. Enfin, je demandais. En plus, mes prétentions étaient pas énormes. C'était pouvoir aller nager à la piscine Nautilus. Enfin, c'était pas très compliqué. Je demandais rien d'autre. Ça a même pas été. J'ai même pas eu de réponse. Après, j'ai des trucs des fois symboliques. Par exemple, quand j'étais champion du monde à Dubaï, j'ai l'ami des sports qui m'a offert la médaille d'or de la jeunesse et des sports sur la promotion du 14 juillet. Voilà. Mais ça reste du symbolique, quoi.
Vous écoutez Attitude 98.3, 90.7 et www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Christian et Sébastien Sudry pour la suite de notre émission.
Moi, je voulais en revenir rapidement sur l'eau libre. Quand vous êtes 700, 800, 1200 au partant, alors c'est une question d'être peut-être, mais comment ça se passe au départ? Est-ce que au final, c'est le premier arrivé, le premier servi sur la ligne de départ, ou est-ce qu'il y a quand même des sas pour les athlètes qui sont quand même confirmés?
Alors, il y a des sas. Bah, déjà, des fois, quand c'est en international, les garçons ne courent pas avec les filles. Donc déjà, les filles, elles partent les premières, les garçons partent après. Et ensuite, souvent, il y a le sas élite. Alors, c'est justement ceux qui font les mondiaux, les Jeux Olympiques et tout ça. Alors eux, ils partent devant. Et après, ils font partir par tranche d'âge, souvent par tranche d'âge de 10 ans. C'est-à-dire que c'est les 20-30 ans qui partent, et après les 30-40, etc. Ou alors des fois c'est des départs groupés, hein, mais quand c'est des départs groupés, ils mettent une ligne et on est tous alignés en fait. On est tous au même niveau, quoi, on est tous voilà. Alors moi j'ai tendance à me mettre un peu sur les côtés, sur les départs, parce que comme on va nager, ça va faire un triangle. Si vous êtes au milieu de départ, vous êtes enfermé en fait. Alors que moi sur les côtés, j'arrive à doubler le paquet par la droite ou par la gauche souvent où on nage. Je me mets pas trop dans la bataille au départ, donc je me mets un peu sur les côtés, mais on est tous alignés. Et comme je disais, sur certaines courses, on part en courant, en fait. On est sur la plage et on court. Et puis après, on plonge dans l'eau ou dans les vagues. Donc, des fois, ça vous fait un tampon dans les vagues. Et quand c'est dans les rivières et les lacs, on est tous dans l'eau, par contre. On est tous dans l'eau. Et puis, tant d'une ligne d'eau. Là, par exemple, en Croatie, cette année, j'ai participé au championnat d'Europe que j'ai gagné, d'ailleurs. Hein. J'ai gagné le 2000 et le 5000. J'étais double champion d'Europe. Là, ils avaient tendu une ligne d'eau et puis ils lèvent la ligne d'eau et puis on part tous ensemble, quoi.
Tu as évoqué quelques bribes de 2022. Est-ce qu'on peut faire justement un bilan de 2022 en connaissant un peu tes résultats et surtout tes destinations?
Alors, en 2022, alors je précise toujours, c'est en catégorie master, hein, chez les plus de 50. Donc j'ai été troisième au championnat du monde d'aquathlon en Slovaquie. J'ai fait double champion d'Europe de nage en eau libre en Croatie, donc sur 2000 et 5000. Et ensuite, j'ai fait des compétitions d'eau libre internationales. J'ai à Barcelone, je suis deuxième master, mais à Tenerife, je suis premier master. Cognac, j'ai gagné au général. Comme je disais, Bordeaux, j'ai fait troisième au général. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait Tenerife, la course à obstacles où j'ai fait premier master. Après, je sais plus trop parce que j'en fais tellement que où c'est que j'étais aussi l'an dernier. Je me rappelle plus trop. J'ai fait aussi Tenerife à la nage, parce que je vous l'ai dit. Parce que j'ai fait Tenerife en mai en eau libre, pareil sur un 5 bornes. J'ai fait cinquième au général. J'ai fait premier master. Et je suis retourné en novembre pour la Spartan Race. Pourquoi Tenerife? Parce que j'ai mon fils qui vit là-bas, donc c'est plus facile aussi pour l'hébergement. Et puis c'est un pays que j'adore, les Canaries, à tous les niveaux. Voilà. Et cette année, je vais commencer le 1er mai, j'attaque fort, je fais les championnats du monde d'aquathlon à Ibiza. Alors Ibiza, je connais puisque j'ai été champion d'Europe là-bas en 2016, donc je connais le parcours. Et ensuite, je vais en juin, je vais en Italie, faire un 5 km pour me qualifier justement au championnat du monde de nage en eau libre, parce que pour les championnats du monde de nage en eau libre, il faut toujours passer par une qualif, comme les championnats d'Europe l'an dernier, il fallait que je passe par une qualif, donc d'où l'an dernier j'avais nagé à Barcelone pour me qualifier en Croatie, et cette année je vais en Italie pour me qualifier au championnat du monde qui aura lieu en décembre à Phuket en Thaïlande.
D'accord. Les qualifs, c'est à la place?
Non, c'est par catégorie d'âge, il faut être dans les 10 premiers de son...
Je veux dire à la place dans ta catégorie d'âge.
Ouais, c'est ça.
Il n'y a pas de notion de barème de temps?
Non, parce que suivant les endroits, parce que...
Parce que chaque parcours est différent, au final.
Oui, et puis si c'est en mer, si la mer est agitée dans les vagues, vous allez moins vite. Quand c'est en lac ou si c'est en rivière avec du courant, vous allez plus vite. D'accord. Pour les gens liés, même moi, quand je fais mes championnats, je m'en fiche du chrono, en fait. Puisque c'est jamais dit, c'est tout le temps différent. En Croatie, il faisait super beau. La mer, elle était plate. J'avais l'impression de nager dans un lac. L'eau était très salée. Donc, quand c'est salé, vous allez encore plus vite.
Ça porte.
Ça porte vachement. C'est plus simple à nager. Vous êtes moins fatigué, en fait, hein, quand vous sortez de l'eau. Les parcours sont complètement différents. La température de l'eau peut jouer aussi. Certains nagent en eau libre. Si la température est en dessous de 20 degrés, la combinaison est obligatoire. Si c'est au-dessus de 20 degrés, vous nagez en maillot de bain. Donc, ça sert beaucoup, quoi. Parce qu'avec une combinaison, vous gagnez à peu près une minute par 1500 mètres. Donc, en combinaison, les chronos sont plus rapides.
Oui, c'est pour ça que ça a été interdit, d'ailleurs, en bassin.
Les championnats du monde d'eau glacée, c'est prévu comme ça, justement.
Enfin, c'est pour ça qu'ils ont interdit la combinaison dans les bassins, aux Jeux Olympiques et trucs comme ça.
Ah oui, c'était des maillots de bain textiles, hein, c'était pas du néoprène. C'était des maillots de bain intégral. Alors moi, j'ai réussi à j'ai nagé pendant 2 ans avec ce genre de maillot de bain. Et c'est vrai que j'ai éclaté tous mes records. Hein. Donc, il y avait quand même un gain, mais je battais mes records, mais largement, quoi. Et quand ils ont interdit les combinaisons, on est revenu aux anciens chronos. Et là, ça faisait mal parce que on comprenait pas. Non, c'était vraiment un gain énorme. Quoi. On gagnait 2 secondes par 100 mètres. Hein.
Donc, carrément, d'accord.
C'était énorme. Hein. Moi, quand je mettais la combinaison, c'était quoi? Il y a 5-6 ans. J'étais en moins de la minute au 100 mètres. Là, maintenant, je suis plutôt à la minute, une minute, une seconde, une minute, 2 secondes au 100 mètres. Donc il y a quand même 2-3 secondes, hein, c'est énorme. Hein. Et plus vous nagez sur du long, et plus le gain était important. Donc ils ont tout arrêté parce que à chaque fois qu'il y avait une compétition, il y a un record du monde qui était battu. Donc il fallait qu'ils remettent tous les jours à jour les records du monde, quoi. Donc non, ils ont arrêté ça, quoi.
Vous écoutez Attitude 98.3, 90.7 et www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Christian et Sébastien Sudry pour la suite de notre émission.
Quand tu te déplaces à l'étranger pour des courses, est-ce que il y a une petite place pour le tourisme ou finalement c'est la course et après on repart en Charente?
Non, j'en profite pour visiter les pays. Moi, c'est ça l'intérêt aussi parce que souvent je pars une semaine ou après sur certaines destinations, j'amène aussi ma femme et mes enfants. Par exemple, quand j'ai fait les championnats du monde d'aquathlon en 2018 au Danemark, ben on y restait 15 jours. Et la même année, là, comme je vous disais, j'avais fait les championnats d'Europe à Ibiza. C'est pareil, on y restait une semaine. J'ai fait aussi une nage en eau libre en Martinique. C'était juste avant le Covid, un mois avant le Covid, j'ai eu du bol. C'était en février et 2020, c'est ça. Mmh. Et là, 15 jours, quoi. Donc, et quand on est rentré en France, on a posé l'avion, on était confiné. C'était pile poil au moment du confinement. Donc, on avait profité du soleil de la Martinique. Et là, on en a profité pour visiter. Voilà, moi, j'en profite. Hein, j'avais fait aussi une compétition à Prague. J'ai visité Prague, tous les châteaux, etc. Non, je visite, j'en profite vachement. Moi, comme j'aime bien la culture et puis tout ce qui est historique, je suis assez fanat d'histoire. J'en profite pour visiter, quoi. Non, ça c'est très bien. Puis ça permet de découvrir la culture de notre pays, même au niveau de la nourriture, tout ça. Enfin, moi j'aime bien cette expérience-là. Et puis souvent quand je vais dans ces pays-là, souvent ils sont amoureux du sport, quoi. Vous voyez. Des fois, moi je fais des triathlons ou des courses en France. Il y a personne au bord de la route, quoi. Quand je vais faire des courses en Espagne, mais c'est noir de monde, quoi. C'est noir de monde, quoi. Il y a du monde partout qui vient de voir les courses et tout ça. Donc il y a des pays qui adorent le sport. Quand j'ai couru en Allemagne aussi pendant toute la course, il y a les Allemands tout le long de la course, quoi. Les gens, ils adorent le sport dans ces pays-là et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont très forts aussi. Il y a pas de secret, hein, pourquoi tous ces pays font des médailles partout, ben, parce que il y a une culture sportive dans ces pays-là. Et voilà, quoi. Mais moi je voilà, et puis ça me permet de découvrir beaucoup de personnes et puis du coup j'ai des amis un peu partout j'ai des copains, j'ai un copain qui est à Porto Rico, j'ai un copain allemand, j'ai une copine, deux, trois copines russes, que j'avais rencontrées sur des compétitions, et on se suit après, on s'envoie des messages, on se suit, et j'ai des amis un peu partout maintenant dans le monde, c'est pas des amis virtuels, c'est des vrais, quoi.
Est-ce que tu peux nous faire un petit florilège d'un top 3 ou d'un top 5 au niveau des destinations qui t'ont vraiment plu?
Qui m'ont vraiment plu. Alors, quand j'ai fait Dubaï, c'était vraiment le dépaysement total parce que c'est un pays avec tous les tours, tout ça. C'est un truc de malade. J'ai l'impression d'être un film de science-fiction. Pour après, pour l'écologie, c'est particulier parce que tout est artificiel, c'est pondu sur du sable. Bon là, c'était vraiment le dépaysement total, hein, Dubaï. Après, comme je vous disais, il y a des pays. Moi, le Danemark, j'ai bien aimé. C'est un pays qui est très propre et qui est très nature. On a l'impression que c'est de la campagne à perte de vue. Et c'est très beau le Danemark. Prague, c'est surtout pour l'histoire. L'histoire de Prague, c'est vraiment tous les châteaux, tout ça, c'est magnifique. Après, j'ai fait beaucoup de destinations dans des îles. J'ai fait la Crète, j'ai fait Madère, pareil en triathlon. J'ai fait Ibiza, j'ai fait tous ces pays-là. Bon, c'est plutôt la carte postale de vacances, voilà, puisque c'est la plage, le soleil, etc. J'ai bien aimé le Canada aussi. Là, j'étais au Canada. J'étais en pleine montagne, comme on voit les cartes postales avec tous les drapeaux canadiens plantés devant les maisons et puis des maisons sans clôture, un peu à l'américaine. Dépaysement complet, le Canada. Voilà. Bon, après, quand je dis Tenerife, là, c'est vraiment j'adore Tenerife à tous les points de vue. Par rapport, vous avez la mer et puis la montagne en même temps, donc ça fait penser un peu à l'île de la Réunion avec le soleil permanent, puisque là-bas il fait soleil toute l'année. Voilà, j'ai des destinations, j'en ai d'autres, mais bon, j'en ai fait pas mal. J'ai fait plus de 40 pays à l'étranger, donc.
Mais t'as un passeport qui est bien rempli.
Ah oui. Bon, après, c'est ce qui est galère aussi, c'est les déplacements. En aéroport, tout ça, c'est galère par contre, hein, parce que souvent il y a des escales, tout ça, il y a des contraintes et tout ça. Bon, quand il y avait la pandémie là, qui était plus avec les passeports sanitaires et tout, bon, moi j'étais vacciné, mais c'est très compliqué dans certains pays. quand j'avais été faire les championnats du monde de haut libre en Égypte, et là c'était compliqué parce qu'il fallait faire plein de tests de machin, alors que enfin bon, c'est, il y a certains trucs, des fois c'est compliqué, hein. C'est la compétition, en fait c'est la récompense, mais c'est surtout ce qu'il y a avant tout ça, la logistique. Des fois je suis perdu quand je rentre de la compétition, pas par l'épreuve mais le retour en France, des fois il est compliqué avec 2-3 avions, des escales, à dormir des fois à 3h du matin par terre dans l'aéroport, ça m'est arrivé plusieurs fois, pour repartir que le lendemain, un avion qui est annulé, voilà, c'est les contraintes, elles sont là à ce niveau-là, quoi. La compétition.
La logistique, justement, tu cales tout seul ou il y a quand même une aide familiale qui t'aide pour ça?
Oh non, je prévois tous mes voyages, je prends mes billets d'avion, je réserve mes hôtels, je loue ma voiture. Non, je suis assez organisé pour ça, moi. Non, j'ai toujours fonctionné comme ça, donc j'arrive à tout caler. Bah, maintenant avec Internet, c'est facile, hein.
Oui.
On arrive à tout calculer. Je fais tout ça. Voilà, pour Ibiza, là, le 1er mai, là, tout est calé déjà. J'ai déjà tout est réservé. Hein. Pour l'Italie, pareil, l'Italie en mois de juin, tout est calé.
C'est où l'Italie? C'est où en Italie, je veux dire?
Alors l'Italie, c'est à Saint-Marin, c'est une
République. D'accord, ok.
Ouais, c'est Rimini, en fait, ça s'appelle.
À Rimini, oui, exactement. Le Tour de France va passer là-bas, d'ailleurs, en 2024.
Alors là, je suis engagé sur le 2 km et le 5 km, voilà.
D'accord. Rimini, d'ailleurs, c'est la ville où, malheureusement, est mort Marco Pantani.
Marco Pantani, ouais, tout à fait. Ouais.
Il est mort tout seul dans un hôtel,
ouais. Là-bas. Je pense qu'il y aura une étape hommage en 2024 du Tour de France. C'est une petite parenthèse que je fais parce qu'en fait, ce sera l'étape Cesenatico, donc l'endroit où il est né, jusqu'à Rimini, l'endroit où il est mort.
C'était un grand champion, mais après, bon, c'est avec un parcours sulfureux quand même.
Oui, tout à fait. Extra-sportivement compliqué.
Ouais, c'est compliqué. Après, moi, j'ai fréquenté des athlètes, des cyclistes professionnels comme ça. Et souvent, quand ils arrêtent leur carrière, ils se réfugient un peu dans les stupéfiants, quoi. Ils tournent mal avec la cocaïne, l'héroïne et tout ça, quoi. Certains finissent très mal, en fait. Hein. Ils ont tellement été habitués à prendre des certains produits que, après, quand ils sont champions, tout ça, ils ont les médias, ils ont les coachs, ils ont les entraîneurs, ils ont tout ce qu'il faut. Mais après, quand ils retombent dans l'anonymat, souvent, il y en a qui tournent mal. Pas tous, hein, heureusement. Hein. Mais quand on voit Bernardino, le gars, il pète le feu. Hein.
C'est vrai.
Comme Bernardino, quand même, c'est vraiment un exemple. Hein. Le mec est toujours là et tout. Mais il y en a d'autres qui ont des travers et puis il faut ils finissent mal. Les Pantani, c'était un peu ça, quoi.
Oui, malheureusement.
Vous écoutez Attitude 98.3, 90.7 et www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h, 20h30. Nous retrouvons Christian et Sébastien Sudry pour la suite de notre émission.
D'ailleurs, en termes d'eau libre et d'aquathlon, est-ce qu'il y a au niveau du doping, est-ce qu'il y a des tests qui sont faits? Est-ce que c'est un sujet qui est abordé?
Alors, sur la compétition du week-end dernier, il y avait des contrôles antidopage. Alors moi, je suis pas passé au contrôle antidopage, mais souvent les contrôles antidopage, c'est que si vous battez un record du monde, par exemple, là, vous avez droit. Et puis, souvent, c'est les tirages au sort. Voilà quoi. Moi, j'ai pas souvent été contrôlé. Après, moi, quand j'étais en région parisienne, j'étais membre de la commission de lutte antidopage. J'ai fait ça aussi.
Et, ah, c'est cool ça, ouais, c'est bien.
Bah, parce que je passais en discipline les gens qui étaient dopés, en fait. Donc là, c'est confidentiel. Je peux pas vous dire les gens qui sont passés devant moi. Mm-hmm. Mais on suspendait 2 à 4 ans voilà quoi. Et souvent, ce qui était étonnant, c'était pas forcément les premiers, hein, qui étaient dopés. Hein. Des fois, ça pouvait être des gars qui étaient 30e ou général. Hein. Des fois, même des inconnus, hein, qui passaient devant la commission. Moi, j'avais été pris parce que j'ai une formation juridique. J'ai une maîtrise de droit pénal et puis comme je suis dans les douanes, nous les douanes on saisit souvent des stupes et puis des anabolisants, etc. La fédération m'avait appelé à ce titre-là, quoi. Donc j'avais été membre pendant 5 ans quand même de la commission de lutte antidopage. Voilà.
D'une manière générale, on peut dire que c'est un sport propre, non?
La natation?
Oui.
Oui, enfin, oui, je pense. Après, c'est malheureux, mais souvent le dopage est dans les sports et où il y a de l'argent, quoi. Mmh. Les gars sont prêts à tout pour gagner de l'argent. Alors en natation, on gagne rien. Moi, quand je suis champion du monde à Dubaï, j'ai une médaille, hein, c'est tout. J'ai même pas 10 €. Hein. Donc, en Croatie, c'est pareil. Champion d'Europe, j'ai une médaille et un t-shirt. Hein. Donc voilà, c'est. Après, je veux pas dire, il y a du dopage partout. Hein. Donc, il y en a peut-être aussi dans la natation. Hein. Donc, il y en a. Certains sports, c'est vachement généralisé, mais je pense qu'il y en a partout, quoi. Puis souvent, c'est pas forcément les meilleurs, hein. C'est des athlètes moyens qui se battent pour atteindre le niveau des autres, quoi. Mais Après, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas tous égaux dans le sport. Hein. Il y a beaucoup de génétique aussi qui est importante. De la génétique. Voilà, par exemple, mon frère et lui, Sylvain, il est deux fois champion du monde élite de triathlon, puisque lui, ça a été le meilleur triathlète français, mais professionnel, pendant 10 ans. Il a gagné tous les titres. Hein. Mais voilà, moi, j'ai mon palmarès à mon niveau. Donc, vous voyez, il y a quand même de la génétique. Sylvain, il a son fils qui a 10 ans, Lenny. En ce moment, il est en train de battre tous les records de la catégorie de 10 ans. Le gamin, il a 10 ans, c'est un prodige. On en entendra parler, je pense, dans quelques années. C'est la génétique. Son père était très fort en natation. Le gamin, il est très fort en natation, quoi. Il y a pas de, voilà. Il y a aussi une espèce de capital à la naissance qui fait que vous êtes plus fort que les autres, quoi. Et certains n'ont pas ce capital, et ils se dopent pour arriver à votre niveau, quoi, pour la facilité, quoi. Parce que nous, derrière, nous, on doit s'entraîner quand même. Voilà, on s'entraîne, et puis il y en a d'autres qui prennent des raccourcis pour aller plus vite, quoi. Mais souvent, ces gens-là, ils tiennent pas longtemps, vous voyez. C'est des générations éclairs, quoi. C'est des gars qu'on voit pendant 2-3 ans, puis après on les voit plus du tout, quoi. Alors que moi, comme je vous dis, ça fait 40 ans que je fais du sport, je suis toujours là, quoi. Voilà, c'est générations des gars qui sortent dont on ne sait jamais, on les a jamais entendu parler, qui vous battent. 2 ans après, vous les voyez plus, hein. C'est qu'il y avait quand même quelque chose, quoi. Mais ça, c'est les travers du sport, et le dopage, c'est ancestral. Hein. Il y en a toujours eu, et je pense que ça continuera, hein. Malheureusement. Parce qu'on ne part pas à armes égales au départ, quoi.
Oui, puis surtout la lutte anti-dopage a toujours un train de retard.
Ah oui, c'est ça. Mais c'est en fait le problème qu'il y a, c'est que ces gens-là, ils ont des médecins derrière. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des gars qui sont médecins et qui prescrivent des médicaments, quoi. Enfin, et ça, c'est pas normal, quoi. Enfin, je veux dire, parce que le gars qui connaît rien en médecine, moi, vous me donnez une boîte d'aspirine ou quoi. Enfin, moi, je sais pas trop ce que c'est, quoi. Donc, pour prendre des médicaments ou des protocoles de dopage comme faisait Armstrong, faut qu'il y ait même quelqu'un derrière qui soit là, quoi. Donc, c'est des gens qui sont pas seuls, hein. Ils sont vachement entourés quand ils font ça. Le protocole de Lance Armstrong, ça lui coûtait $1 million par an, hein, son dopage. Faut le savoir, hein. $1 million, hein, pour se doper, hein, pour gagner le Tour de France. Donc, ça, c'est des sommes, c'est des trucs. Et derrière, c'était le docteur Ferrari, là, qui le chargeait à tire-larigot et qui se faisait payer en échange. Donc, il y a quand même derrière des gens derrière eux, quoi. Il y a pas que le sportif, hein. C'est leur entourage aussi qui est malsain.
On a parlé de ton année 2022, donc 2023. Donc, il y aura les Ibiza au mois de mai. Est-ce qu'il y a d'autres compétitions ou d'autres, parce que tu nous avais dit que ton programme était déjà calé, où vas-tu aller et que vas-tu faire?
Alors, mais là, je vais faire, donc là, je suis déjà inscrit sur les championnats du monde d'aquathlon à Ibiza. Je suis aussi inscrit sur les championnats d'Europe d'aquathlon qui ont lieu en septembre en Belgique. Donc là, je suis sélectionné par par la Fédération française de triathlon. Pour passer à ces championnats, faut être sélectionné par la fédération. On peut pas s'inscrire comme ça. Donc c'est des courses fermées, mais par rapport à votre palmarès. Et voilà. Et après, je vais faire, donc comme je disais, en Italie en juin, le sélectif pour me qualifier aux championnats du monde, en fin d'année de nage en eau libre. Là, je suis obligé chaque année de passer par un sélectif. Même si j'étais champion d'Europe l'an dernier, je suis obligé de repasser par la qualif
en eau libre. D'accord. Il n'y a pas d'invitation pour le tenant du titre ou un truc comme ça.
Voilà, on repart à zéro à chaque fois.
D'accord. Bon, on espère que ça se passe bien parce que Phuket, c'est une belle destination aussi.
Ah oui, c'est là pareil, ça va être une destination assez onéreuse, hein, parce que j'ai commencé à
rêver. Oui, c'est vrai.
Mais après, comme ça, c'est nager dans des endroits paradisiaques, quoi. Moi, je sais que en 2021, là, quand j'ai fait les championnats du monde de nage en eau libre en Égypte, voilà, j'étais malade, hein, j'étais très malade tout le jour de la course. J'ai quand même fait 4e dans ma catégorie, mais j'aurais pu faire le podium si j'avais pas été malade. J'ai vraiment une crève colossale. On a nagé dans la mer Rouge, et quand je nageais, c'était un aquarium à ciel ouvert, quoi. C'était rempli de poissons. Et là, en plus, c'était pas un 5 bornes, c'est un 6 km. Ils avaient rallongé un peu plus. Et c'était magnifique, quoi. Donc là, c'est un souvenir. Vous voyez les coraux, puis vous nagez. L'eau était transparente là-bas. Et c'était rempli de poissons, quoi. J'ai jamais vu autant de poissons. Enfin, j'en ai vu aussi beaucoup aux Antilles. Mais là, c'était vraiment... D'ailleurs, c'est un spot pour la plongée. Là-bas, il y a beaucoup de plongeurs qui y vont. Et c'était vraiment magnifique, quoi. Donc, c'est vrai que les destinations sont sympas aussi, quoi. Ça permet de rendre l'utile et l'agréable, quoi.
Tout à fait. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je vois en premier, les destinations.
Ouais, c'est ça. Ouais. Après, moi, je ne choisis pas parce que là, le championnat d'Europe, il est à Ibiza, mais l'an dernier, c'était en Autriche. L'Autriche, c'est moins, voilà, c'est moins.
Ah oui, voilà. Mais personnellement, ce serait en Slovaquie. Moi, je kifferais y aller parce que c'est un pays que j'aimerais beaucoup visiter un jour dans ma vie. Enfin, c'est pas forcément là où il y a du soleil que enfin, c'est pas non plus le plus attirant.
Alors la Slovaquie, moi j'ai couru déjà trois fois là-bas. C'est, ça reste une un pays post on va dire communiste quoi, en fait. Ouais. C'est, ça a pas trop évolué. En fait, c'est beaucoup d'immeubles, tout ça. C'est alors il y a peut-être des endroits sympas à voir, mais moi je suis comme j'étais à Bratislava. Ça reste un peu urbanisé. J'ai pas trouvé vraiment un truc contrairement à Prague où c'est plus historique. Voilà. Après, c'est des gens qui sont gentils quoi. Enfin, moi quand j'étais à l'hôtel et tout ça, c'est des gens qui sont. Enfin, quand je vais dans les pays de l'Est, les gens sont gentils en fait.
Ouais, tout à fait.
Accueillant. Fait. Voilà.
Moi, c'est un pays que j'aimerais bien visiter parce que je connais l'hymne national slovaque par cœur.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Voilà. Alors, faut pas chercher comment je l'ai appris, mais j'ai appris cette chose-là.
C'est la Slovénie. La Slovénie, c'est juste à côté. C'est pas mal parce que ça ressemble un peu à l'autre, à la Suisse. C'est plus beau. La Slovénie, c'est plus montagneux.
Tout à fait. J'imagine que la Slovénie, on a la montagne et puis la verdure et puis les lacs pas loin. C'est vrai que c'est un spot de pêcheurs, la Slovénie.
La Slovénie, j'avais trouvé très beau. La Slovénie, c'est vraiment nature et ça fait. Puis les maisons, ça ressemble à des chalets. Chalets sur le bois là et tout. C'est assez montagneux avec des lacs. D'ailleurs, j'avais nagé en lac. Mais ouais, c'est la Slovénie, c'est pas mal. Pourtant, c'est juste à côté. C'était pas mal. C'était pas très loin de l'Italie. J'avais fait un détour par l'Italie aussi. C'est des peuples qui sont accueillants quoi en fait. Voilà, ils sont contents de quand il y a et puis quand on dit qu'on est français, souvent dans ces pays ils ont pas de touristes français.
Bah, d'accord.
À Bratislava, j'étais pour ma compète l'hôtel français. Bon, souvent ils parlent allemand ou russe ou anglais. Le français c'est pas pratiqué dans ces pays-là, mais ils sont contents quand on représente la France. Eux c'est la Tour Eiffel. Ils ont l'impression que c'est la Tour Eiffel qui vient chez eux. Et à chaque fois, je suis vachement bien accueilli dans ces pays. C'est toujours bien choyé. Ah, c'est le français. On est quand même bien vu à l'étranger, quoi qu'on en dise.
Et dernière question pour moi. Est-ce que tu es fétichiste dans le sens où tu gardes toutes tes médailles, tous tes trophées, tous tes t-shirts de participation? Enfin, est-ce que du coup, tu gardes quand même la boîte à souvenirs entre guillemets à fond, ou au final, ça reste l'objet et c'est pas forcément le plus important?
Eh bien justement, j'ai fait un gros truc l'an dernier, c'est que l'an dernier, j'ai offert mes 500 coupes aux clubs locaux, en fait. Je sais pas si vous avez vu ça en achat en libre. Depuis 87, j'ai accumulé 500 coupes, parce que moi, j'ai couru plus de 600 courses et j'en ai gagné 200 courses. Et en fait, les coupes, je les ai offert au triathlon d'Angoulême, je les ai offert à un club d'athlétisme à Limoges. Enfin, ils sont tous venus, il y a une dizaine de présidents de clubs qui sont venus. Il y en a même certaines qui sont parties en Bretagne. J'ai offert toutes mes coupes que j'avais gagnées dans ma carrière et j'ai gardé que les médailles de champion d'Europe ou du monde qui sont dans une boîte précieuse. Là, celles-là, je les ai gardées. Mais voilà, j'ai offert toutes mes coupes l'an dernier. Voilà.
Ça permet justement aux clubs locaux, quand il y a des compétitions, de pouvoir remettre des compétitions, parce que c'est vrai que c'est toujours parfois compliqué de trouver des coupes ou d'en acheter. Donc
Mais j'avais évalué, il y en avait pour 15 000 euros quand même, hein, de trophées. Ouais. Ouais. Une coupe, ça vaut entre 30 et 50 euros.
Il faut avoir une grande maison pour caser tout ça.
Ah ben j'ai une salle dédiée pour ça.
D'accord, ok.
T'as la salle des trophées.
Ouais, ça fait penser au miroir de Versailles quand vous entrez le Palais des Glaces. Ça, vous voyez dans toutes les coupes avec le reflet quand vous ouvrez la pièce. Là. Voilà. Et après, je garde tous les t-shirts et des courses. Et puis souvent dans mes compétitions, j'ai des bonnets de natation. Donc, soit ah oui. L'aquathlon, et là j'en ai une quarantaine de bonnets, des plus beaux bonnets. Là j'en ai eu encore ce week-end. Hein. Ça je les garde en souvenir. Voilà.
Au niveau local, est-ce que tu es engagé auprès d'un club ou auprès d'une municipalité? Enfin, quel regard tu as un peu sur le local en Charente?
Alors moi déjà je suis au club de triathlon d'Angoulême parce que je suis obligé d'avoir une licence sportive pour faire les aquathlons par exemple, les triathlons. Et puis je suis membre du club de Rochefort en natation. Je suis licencié à Rochefort parce que là il y a un club master de nageurs qui n'y a pas Angoulême. Donc je suis à la fois Charentais et Charentais maritime. Hein. Je suis dans les deux.
Donc dimanche on te voit à Bordeaux sous les couleurs de Rochefort.
Ah oui, je nage pour Rochefort. Ouais. Notre équipe, on est 20 nageurs inscrits du club. D'ailleurs, on a été finaliste des championnats de France par équipe, master. On a été à Tours, on a été finaliste. Donc, il y a un gros club là-bas. Voilà. Après, pour la Charente, pour Angoulême, mais Angoulême, c'est surtout le ski en poupe, c'est le rugby et le foot, la SA15 et puis la CFC football. Après, il y a le G2A qui est en athlétisme à des athlètes féminins, surtout chez les féminines. Ils ont des.
Avec Sornia Dacoste.
Oui, et puis ils ont une petite jeune aussi, Blanc, qu'est-ce qu'il s'appelle, là,
qui est championne de France. Lisa Blanc.
Voilà. qui est très forte aussi. Voilà. Après, les autres sports, c'est un peu plus confidentiel, quoi. Voilà, quoi. Après, comme je vous disais, les soutiens, il y en a. Enfin, de mon côté, j'en ai pas du tout. Mais bon, ça, c'est pas grave. Je j'ai pas besoin d'eux pour performer. Et voilà. Après, moi, je suis souvent appelé, par contre, pour être parrain des compétitions. Cette année, j'étais parrain du marathon du Cognac à Jarnac. C'était moi le parrain de la course. J'ai été aussi parrain du trail d'année à année. J'ai été aussi parrain de la Color Run là à l'île des Pagnac là pour le Téléthon.
Oui.
Voilà, j'avais été parrain du Téléthon aussi. Voilà, on m'appelle souvent des fois pour donner le départ des courses ou ça. Ils aiment bien d'avoir un athlète local qui est assez titré. Souvent, on m'appelle pour remettre des coupes ou pour donner le départ des courses. Voilà, je fais souvent le parrain des compétitions.
C'est une reconnaissance méritée, Sébastien.
Ouais, c'est pas mal. Et puis moi, ça me permet aussi de passer de l'autre côté, parce que pour le marathon du Cognac, je suis resté 3 jours. J'ai vu l'envers du décor, quoi. J'étais quasiment bénévole, quoi. Donc ça m'a permis de rencontrer les bénévoles qui sont très sympas à Jarnac. C'est vraiment un gros marathon qui est très populaire, et voilà, eux, ils savent accueillir les athlètes. Par contre, c'est vraiment l'athlète est mis en avant. Et puis moi, ils m'ont mis en avant aussi par rapport aux autorités locales, etc., la presse locale, tout ça. Ils m'ont bien mis en avant en tant que parrain. Ça avait une certaine reconnaissance, hein, parce qu'il faut savoir qu'au marathon du Cognac, ils avaient à l'époque, ils ont eu Jalabert, ils ont eu Pérec, ils ont eu des gros athlètes mondialement connus, et qui m'aient invité pour être le parrain, ça m'a fait vraiment plaisir. Et franchement, c'était une belle organisation, et je les remercie encore de m'avoir invité à leur marathon.
Parfait. Christian, encore une question peut-être, ou bien on en a terminé?
Oh bon, non, juste un bon courage pour Sébastien pour la semaine prochaine du Clé de Bordeaux. Hein. Heureusement, l'eau sera un peu plus chaude, donc
ça ira mieux là.
Donc le corps n'ira pas non.
Non, là ça ira. Je retourne à mes classiques, on va dire.
En jardin connu.
Voilà, ça se nage à la piscine de Galin, et il faut savoir que moi je suis bordelais, hein, je suis né à Bordeaux. Mais ma première compétition que j'ai faite quand j'avais 10 ans était à cette piscine à Galin. Donc en fait, c'est une espèce de retour aux sources. Donc c'est la boucle est bouclée, on va dire.
Bah, ce sera le Fréquence Star à Bordeaux.
Voilà. Ouais, c'est ça.
Sébastien, on te souhaite le meilleur pour l'année qui vient, la santé d'abord, hein, parce que sans ça, on n'est pas grand-chose. Et puis plein d'émotions sportives pour toi. On reviendra te faire un coucou une fois par an, parce que vraiment, t'es un personnage très très attachant qui véhicule des valeurs qui nous sont chères, hein, qui sont celles de l'amateurisme flamboyant. On te dit donc à très bientôt. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, Sébastien, et à très bientôt.
Bah, je vous remercie beaucoup, et c'est vrai qu'Attitude, vous me suivez depuis plusieurs années, et je vous remercie aussi. De mettre en avant un peu mes performances, et puis surtout mes sports qui sont particuliers, qui sont forcément médiatiques.
C'est pas tous les jours qu'on a des champions du monde, hein.
Oui, je sais. Mais c'est vrai que vous êtes assez technique et vous invitez tous les sports, et ça, c'est très bien, quoi. Franchement, je vous en remercie encore. Voilà.
À très bientôt, Sébastien. Merci encore.
La radio, alors, ça marche. Merci à vous, en tout cas.
À très bientôt. Au revoir.
Ouais, à bientôt. Au revoir.